Il est 13h. Come on, oh baby, don't you wanna go? Come on, oh baby, don't you wanna go? Back to that same old.
Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1112, en ce samedi 26 juin 2021, sur le 666. On est ensemble de 13h à 15h. Marc Loison pour vous servir avec deux invités de marque aujourd'hui. Salut Laurent.
Salut Marco, salut à toutes et à tous.
Salut Jean-Christophe.
Salut Marco, salut les amis.
Laurent Choubrac et Jean-Christophe Panico qui sont de retour après 18 mois d'absence. Pourquoi, comment, on va s'expliquer sur tout ça parce que j'attends un mot de vos parents.
Si on a été assigné à résidence comme tout le monde. Hein.
Et très franchement, voilà, je vous l'ai dit en antenne, je vous le redis là, vous m'avez manqué.
Pareil.
On va rappeler quand même juste très brièvement l'histoire. Vous êtes unis par le PACS depuis 2011, je crois. Hein,
depuis mai 2011, ouais, précisément. Ouais.
Voilà, cette fabuleuse émission du 7 mai 2011 qui vous avait réunis. On se connaissait l'un l'autre et puis vous ne vous connaissiez pas réciproquement. Et vous êtes venu co-animer avec moi une émission en hommage à Robert Johnson. En fait, si Robert Johnson n'était pas né en 1911, peut-être qu'on aurait porté cette rencontre à plus tard. En tout cas, ben, ça a donné beaucoup de choses. Ça a donné une solide amitié déjà. La collaboration de Laurent aux albums de Jean-Christophe. La collaboration de Jean-Christophe aux albums de Laurent. Un album ensemble. Et puis l'arrivée de Laurent de plus en plus fréquente dans le groupe de Jean-Christophe, à savoir les Witch Doctors. Donc rien que pour ça, ça valait le coup de vous réunir, moi je trouve.
Eh oui, absolument.
Alors, je continue à apprendre mes chansons. Parce que et d'ailleurs, j'ai une requête à faire, Jean-Christophe. Oublie pas de me donner des tonnages. Chaque début de morceau.
Les tonalités, c'est très important. Tu le fais en quoi celui-là? 1, 2, 3,
4. C'est un peu ça si tu veux.
Impeccable. Voilà, Sweet Home Chicago aujourd'hui. Je ne vais pas beaucoup parler, contrairement à l'habitude, parce que bah, déjà les invités, ils sont là. Il n'y aura personne au téléphone. Il n'y aura pas le disque du mois. Il n'y aura pas les vieilleries. Il n'y aura aucune rubrique habituelle. Mais il y a une carte blanche à Jean-Christophe Panico et Laurent Choubrac. Donc j'interviendrai juste de temps en temps pour. Ça, si jamais vous dites une connerie, les garçons, c'est le genre de truc qui peut arriver ou pas. Donc c'est vous qui présentez l'émission. Moi, je m'efface. Je vous laisse commencer par expliquer pourquoi cette carte blanche et comment vous l'avez conçue tous les deux.
Ah, alors tu veux expliquer ou... alors, gentiment, tu nous as proposé de fêter nos 10 ans d'amitié lors de ton émission, donc merci. C'est vrai qu'on est toujours tellement bien ici, puis on rit, puis on passe des bons moments musicaux et autres. Et puis, tu nous as dit un truc terrible en disant, voilà, vous choisissez une quinzaine de morceaux, tous les deux. Et là, on s'est dit, bon, 15 morceaux pour se résumer qui on est, ce qu'on aime, c'est compliqué. Donc, on s'est imaginé à un moment donné, chacun faire une partie de la programmation. Et puis, on s'est dit, non, on va faire différemment. Donc, on s'est mis d'accord ensemble sur 18 artistes qui faisaient, pour nous deux, l'unanimité. Donc, l'unanimité à deux, mais quand même l'unanimité.
Oui.
Et puis, pour ces artistes-là, on a un peu débattu de savoir quel morceau on allait passer. Mais bon, globalement, on est content de cette setlist. Donc, c'est pas la playlist de Laurent, c'est pas la mienne, c'est celle de nous deux. C'est nos goûts communs. Voilà. Voilà.
Donc, je rectifierai juste en disant qu'il y en avait 19, mais j'en ai oublié un sur la liste, mais c'est tout. On a amené le disque quand même.
J'aimerais bien qu'on démarre, non pas par un de vos coups de cœur, mais juste pour planter le décor, par un extrait de votre album qui s'appelle « Va savoir où ce chemin nous mène ». Promis, j'en dirai pas plus, c'est le titre album. Et juste après, c'est à vous pour cette carte blanche spéciale Laurent Choubrac, Jean-Christophe Panico dans Sweet Home Chicago.
Ce matin triste et froid n'est pas comme les autres. Aujourd'hui faire semblant me pèse. Et ce qu'on attend de moi, ce que je porte à bout de bras, parmi ces choses, pas une qui me plaise. Pourtant je l'aime cette vie, toutes ces extases faciles, ces victoires à la petite semaine. Congratulations grandiose, alors qu'on n'est qu'une petite chose. Et va savoir où ce chemin nous mène. Encore une fois, prêt à séduire. cette ville et espérer tenir bon jusqu'au bout. J'aurais pu disparaître, refuser le combat, rester dans les masses anonymes. Je n'ai pas su résister à l'ivresse des destins forcés, des pions qui ne voulaient plus vivre immobiles.
À savoir où ce chemin nous mène, c'est ainsi que s'intitulait l'album de Laurent Choubrac et Jean-Christophe Panico, enregistré fin 2019. Un album qu'on peut toujours se procurer, il en reste.
Exactement, parce qu'en fait, avec le confinement, on n'a pas beaucoup d'occasion de le promouvoir. En fait, on a fait un concert, mais on en fait un deuxième bientôt, le 9 juillet à Langrune, avec toute l'équipe de l'album, voilà. Et puis nos choristes, et puis voilà.
Dorothée et Océane. Voilà. Alors, Laurent Choubrac et Jean-Christophe Panico, le premier coup de cœur, allez, on y va, carrément, c'est parti.
C'est un certain Bruce Springsteen, dont on est fan absolument, qu'on a vu un certain nombre de fois à nous deux. Que dire ? Springsteen, on pourrait en faire une émission complète.
C'est énorme, hein. Énorme. Ouais. T'avais pas fait un spécial Springsteen dans Sweet Home Chicago une fois
ou... Si, oui. Ouais, si, ça remonte, mais ouais. Et bon, c'est la. Alors, c'est pas blues pour deux ronds. Je sais pas s'il y a un accord septième dans ces chansons, je suis pas sûr. Peut-être en cherchant bien, mais. Par contre, c'est, je sais pas, c'est l'incarnation du rock américain, quoi. C'est vraiment. Et puis alors, quand on a la chance de l'avoir vu sur scène, c'est simplement monstrueux, dévastateur. C'est de la joie. Il y a une particularité, je l'ai déjà dit, mais au concert de Springsteen, c'est que moi j'ai eu la chance de faire le premier qu'il a fait à Paris, à Saint-Ouen.
En 42.
En 42. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. C'est que. Il y a une espèce de bonheur qui dans le public. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre. Je sais pas. C'est pas une communion. Hein, c'est pas un truc. Mais les gens, ils ont tous une banane pendant le concert, en sortant du concert. Enfin, il y a quelque chose d'assez magique. Et en plus, les gens connaissent tous les paroles. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est quand même assez ahurissant. Et bon, voilà. Alors, pour le choix du titre, je vais te laisser la parole.
Alors, ce titre-là, c'est un genre de titre ultime. Je pense que quand on est mal, quand on est bien, on l'entend. Et puis, ça nous fait toujours hérisser le poil 30 ans après, 40 ans après. C'est un petit peu ce message. On n'est pas des héros, on est cabossés. La vie nous fait pas de cadeaux, mais voilà, on va y arriver, et puis on va se battre. Et puis devant nous, c'est une route lumineuse, une route glorieuse qui nous attend. Donc, Thunder Road.
Thank you. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself.
La première sélection effectuée par Laurent et Jean-Christophe. Je vous rappelle qu'on est installé confortablement dans le 1112e Sweet Home Chicago sur le 666 et que c'est carte blanche à Jean-Christophe et Laurent. On vient d'entendre Bruce Springsteen, bien sûr.
Ça fait du bien. Hein.
Ouais, en fait, on peut mourir après ça.
Ça nettoie bien les conduits auditifs.
Ah non, c'est fatal. Alors juste ce que je voulais dire sur cette chanson-là, puis après je me taire parce que sinon, enfin on pourrait en dire sur
sinon
chaque chanson.
Sinon on en passera trois.
Voilà, c'est ça. Non, c'est qu'au niveau de l'écriture, bon Springsteen est un immense songwriter, mais c'est assez génial parce que c'est vraiment des images de cinéma. Enfin, tu pourrais, t'as vraiment l'impression de voir un film, quoi. Quand t'écoutes ça, tu regardes. Voilà, c'est tout. C'était juste de dire ça parce que c'est une très très belle écriture. Suivant.
Moi, je voudrais juste faire une petite parenthèse pour remercier Jean-Christophe qui m'a mis des petits post-it sur les pochettes. CD3, plage 14. Merci Jean-Christophe, c'est super. C'est très confort. J'ai plus rien à faire.
C'est un garçon très organisé.
Je sais pas. Ça dépend pourquoi.
Oui, bon, en tout cas pour ça. Voilà. Suivant.
Candidat suivant.
Alors, suivant, on était un peu embêtés parce que, en fait, le suivant, c'est Neil Young. Et on voulait passer du Crosby, Stills & Nash. On s'est dit, bon, est-ce qu'on fait un Crosby, Stills & Nash & Young? Parce que ça, ça fait vraiment aussi partie de nos influences majeures. Et puis, comme il fallait quand même un peu réduire la liste, on a choisi un morceau de Neil Young où les choristes sont de mémoire.
Dorothée et Océane.
Non, David Crosby, Graham Nash.
Et Stephen Stills aussi. Parce que c'est pareil. On aurait pu choisir du Stills, on aurait pu. Et alors, il y avait 40 000 choses à choisir là-dedans, quoi, entre Wooden Ships, de Crosby, Stills & Nash. Oui, enfin voilà, quoi. Ou Harvest, ou j'en sais rien. Enfin, tous les albums de Neil Young sont bons, tous les albums de Stills sont bons.
Même les récents de Neil Young.
Il y a toujours des bonnes choses dans ses albums. Ouais. Bien sûr, il en sort 4 par an, donc sur les 4 par an, il y en a.
T'en as au moins 3 de bons, quoi.
Alors, c'est pas une critique, mais c'est vrai que vous avez beaucoup, beaucoup puisé dans les années 70, ouais. Et c'est le cas aussi pour Neil Young, justement.
Oui.
Ouais, mais alors sur Neil Young, il y a vraiment des très belles choses sur les derniers. Alors, il y a des choses des fois assez inaudibles hein, chez lui, il faut reconnaître. Hein, il y a un ou deux albums.
Mais il continue à se réinventer en permanence, tu vois. Donc c'est des artistes qui ont une créativité quand même qui est fantastique.
Tu parles sous le contrôle de Jean-Do Bernard qui va écouter l'émission à un moment donné.
Je pense. Ouais.
Et puis pour revenir, enfin sur les histoires de scène, Neil Young sur scène, c'est aussi un monument. Hein. Enfin moi la dernière fois que je l'ai vu. Enfin, c'est tu comprends pourquoi tous les groupes grunge de Seattle étaient fans de lui, quoi. Hein, parce que à 70 ans, il t'envoie le truc chapeau, quoi. Hein, c'est vraiment, c'est un gamin sur scène, quoi.
Et là, on a choisi l'une de ces nombreuses chansons magnifiques, formidables, fantastiques, qui te collent la chair de poule quand tu les écoutes. Il doit en avoir 40 ou 50 dans son répertoire, et puis tu retombes dessus de temps en temps au hasard d'un disque, et tu te dis, ça c'est quand même une grande chanson. Elle est très simple, mais très belle. Elle s'appelle Birds. C'est sur After the Gold Rush.
Lover, there will be another one who'll hover over you beneath the sun. Tomorrow, see the things that never come. Today, when you see
Laurent, est-il vrai de dire qu'après Neil Young, le silence qui suit, c'est encore de Neil Young ?
Ouais, on peut le dire. Donc on va rien dire.
Mais quand on voit la qualité de cet album-là, After the Gold Rush, enfin c'est.
Il faut que je me le rachète. Ça, c'est des trucs.
Je ne connais personne qui puisse rester insensible, personne qui a des oreilles et un cœur qui puisse rester insensible.
Avec des oreilles et un cœur, tu as bien fait de préciser. Ça s'appelle Gold Rush.
After the Gold Rush.
Et le titre, c'était Birds. Ah tiens, un petit groupe de genoux.
Oui. Derrière. Ouais. Et on arrive 50 Years After. J'ai passé ce disque-là il y a quelques semaines, parce que tu sais, à la fin de chaque émission, maintenant, j'essaie de passer un truc qui a 50 ans pile. Ouais. C'est le cas de l'album qui suit.
Ouais, 71.
Ouais. Sticky Fingers, ouais. La Rolling Stones. Ouais.
Ouais. Alors, puisqu'il faisait des vannes sur mon. Je l'ai quand même acheté quand il est sorti, le jour où il est sorti, hein, quand même. Bon, juste pour dire.
Moi, j'ai gardé la braguette.
Ouais, j'ai la version originale. Ouais. Ouais. Elle est un peu abîmée, je suis désolé, je l'ai beaucoup.
Tu t'en es beaucoup servi. Rappelle-moi quel âge tu avais en 71.
Juste, parce qu'en fait, je l'avais mise au-dessus, je l'avais mise dans mes toilettes à une époque, il y a pas très longtemps, et en fait, mes neveux et mon fils et tous les gamins, chaque fois qu'ils allaient pisser, ils ouvraient. Donc, elle a un peu morflé.
C'est toujours la faute des gosses quand on fait des conneries.
Tout à fait. Bon.
Alors, pourquoi cet album particulièrement, et pourquoi les Rolling Stones?
Pourquoi cet album? Alors, c'est très compliqué parce que, en fait, les Rolling Stones, on aime tout, tout en étant d'accord sur le fait qu'il y a évidemment un âge d'or qui est insurpassable. Cet album fait partie de l'âge d'or, les titres qui va de Beggar's Banquet à Exile on Main Street,
peut-être éventuellement Gossett Soup
que j'aime. Est-ce que la présence de Peter Green est étrangère à ce choix ou
Peter Green, c'est-à-dire
non
parce que c'est juste après, enfin je veux dire on aurait pu
pas Peter Green.
Mick Taylor.
L'association de John
Mayer. Mick Taylor et Mike Green, effectivement.
C'est là où peut-être on diverge un petit peu avec Laurent. Moi, j'ai jamais voué un culte absolu à Mick Taylor dans les Rolling Stones. Je trouve que c'est un guitariste qui est super, mais qui se posait un peu comme un complément sur le groupe. Et j'aime beaucoup Run Wood aussi, moi. Mais c'est surtout cette chanson qui est extraordinaire, qui est pas la plus connue, qui est pas très connue. Et moi, je sais que je l'avais un peu oubliée et je l'ai redécouverte quand elle était reprise par Solomon Burke sur un de ses super disques Make Do With What You Got. Je sais pas si tu vois Laurent.
Solomon Burke, on peut pas le louper.
Je vois bien Solomon Burke. Mais...
ouais. Il peut pas le louper, lui. Voilà.
Ah ouais. Et juste dire aussi que les Stones, en ce qui me concerne, c'est quand même ça qui m'a amené au blues, si tu veux. C'est-à-dire que ça fait partie des trucs que j'ai découvert quand j'avais. Je sais pas quel âge j'avais en 71, j'avais
14 ans,
donc j'avais découvert un peu avant, et parce qu'en fait j'avais acheté Get Your Ears Out avant, donc en 70, et je me suis mis à écouter le blues parce que je suis tombé sur des gens qui m'ont dit ouais non mais ça c'est bien, mais écoute les versions originales, quoi, qui m'ont fait découvrir Muddy Waters et tout ça, et je suis pas le seul, hein, qui s'est arrivé, hein,
il y a plein de gens qui passent par les Stones, effectivement, voilà. Et de tout le blues,
les Stones, ça reste quand même les Stones, quoi. Voilà.
Et il faut écouter juste, hein, si on est amateur d'écriture de chansons, comme ces petits Anglais avec ce titre-là, ils ont réussi à pondre un titre Stax Otis Redding, plus réel que nature.
Voilà. Ça s'appelle comment le titre ?
I Got the Blues.
Tout simplement.
Stand.
I Got the Blues, on est en 1971 avec les Rolling Stones, c'est toujours Sweet Home Chicago, 1112e épisode avec Jean-Christophe Panicaud et Laurent Choubrac qui partagent avec vous leurs meilleurs souvenirs de leurs 14 ans, voire plus, voire moins. Laurent et Jean-Christophe qui se sont rencontrés ici pour la toute première fois il y a 10 ans et voilà, on est en train de célébrer cette amitié naissante et qui s'est solidifiée. Et à quand le Pax, je ne sais plus, on avait
déjà. Je ne sais pas, mais on a déjà fait des enfants, tu sais.
Bien, alors, candidat suivant, c'est un garçon absolument indéboulonnable.
Ben oui, puis qui est quand même...
qui est toujours vivant.
Qui est toujours vivant.
Il vient de fêter ses 80 ans.
Il vient de fêter ses 80 ans.
Et qui tourne. Et qui tourne.
Qui est quand même prix Nobel de littérature, quand même. Non mais, dis donc. Voilà, c'est un certain Robert Zimmerman, dit Bob Dylan. Alors là, c'est incontournable. Quoi. Là, je pense qu'on pourrait dire, il n'y a peut-être rien à dire en fait.
Alors, on a essayé de pas trop réfléchir en faisant la setlist, tu sais, parce que les chansons, pareil, essentielles de Dylan, on aurait pu en lister 40 ou 45.
Oui, on en faire un spécial Dylan.
Il est très très rare qu'on fasse un concert sans reprendre une de ses chansons d'ailleurs. Cette chanson-là, elle est un peu particulière. Blan Willie McTell, en hommage à la légende du blues, sachant que le texte parle pas tellement de Blan Willie McTell finalement. C'est aussi, je sais pas, cette chanson-là, c'est un symbole du génie de Dylan parce que c'était un titre qui était sur. Qui était prévu pour être sur un de ses albums, l'album avec Jokerman, c'est comment, Infidels,
Infidels. Ouais,
produit par Mark Knopfler. Et puis finalement, il a jugé que le titre n'était pas assez bon, donc il l'a mis dans un grenier.
Tout juste bon à être repris par Elliot
Il l'a
Marcy,
sorti
quoi,
sur les Bootleg Series, et c'est un titre culte en fait, parce que c'est un de ses titres les plus repris. Ouais. Sa version à lui est superbe, et puis on a eu l'occasion, les fans du Subok ont l'occasion pendant très longtemps d'entendre les grands Olivier Durand et Elliot Murphy le faire à la fin. Il y a une version par Mick Taylor qui est superbe, il y a une version par Chris Bergson, t'en parlais.
Chris Bergson, il vient d'enregistrer un album en solo.
Il y a une version monumentale par Francis Cabrel sur son album Vise le ciel. Donc voilà, Blan Willie McTell. Personne ne chante le blues comme Blan Willie McTell. Voilà.
Seen the arrow. Saying this land is condemned, all the way from New Orleans to Jerusalem. I traveled through East Texas, where many and I know no one can sing the blues like Blan Willie McTell. Well, I heard that hoot owl singing as they were taking down the tents. The stars above barren trees was his only audience. Then charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but nobody can sing the blues like Blan Willie. Them big plantations burning, hear the cracking of the whips, smell that sweet magnolia blooming, see the ghost of slavery ships. I can hear them try. With some
dressed up like a squire. Bootleg whiskey in his hand. There's a chain gang on the highway. I can hear them rebels yell. And I know no one can sing the blues like Blind Willie
Willie McDale, c'est la version Bob Dylan, et on l'évoquait tout à l'heure avec Jean-Christophe. Il y en a tout plein des versions comme ça, mais celle-là, ouais, c'est quelque chose. Et c'est vrai que si on veut tout écouter, enfin, ce sera pas possible d'ailleurs. on va faire un volume 2. Je vous laisse continuer.
Ah, c'est prochain. John Hiatt. Ça, c'est une des sources de notre amitié, John Hiatt. Première fois qu'on a discuté ici, alors on faisait du blues, Robert Johnson. Alors on aime beaucoup le blues, hein, c'est pas le problème, mais c'est vrai que notre grosse passion, c'est les songwriters américains. Et je crois qu'on s'est dit, on s'est parlé tout de suite de John Hiatt, et comme on a vu qu'on connaissait aussi bien l'un que l'autre, on s'est dit que on avait vraiment des goûts communs.
D'autant que John Hiatt n'est pas forcément si connu que ça. Alors oui, c'est dans les gens qui écoutent de la musique, mais c'est quand même pas le songwriter le plus connu de la Terre. Pour moi, c'est, alors j'aimerais pas dire que c'est l'équivalent d'un Bob Dylan, parce que c'est quand même un peu différent. Lui-même ayant dit qu'un jour Bob Dylan avait pris une chanson de lui, qu'il était aux anges de tout ça. Mais c'est un super songwriter, et qui a une carrière un peu particulière, parce que la première fois, enfin, son premier disque, quand il est sorti, il était assimilé, il est sorti en 79, ouais, il s'appelle Slug Line, et il était assimilé New Wave. Et en effet, quand t'écoutes les premiers albums, t'as des trucs produits un peu par Niclo, t'as des choses un peu particulières, un peu bizarres, il cherchait un peu. Et puis, il a sorti un album majeur qui s'appelle Bring the Family. Sur lequel il y a le titre qu'on va passer. Derrière, il y avait, excusez du peu, Ray Cooder, Jim Keltner et Nick Lowe, qui ont donné un groupe qui s'appelle Little Village, qui a fait long feu, parce qu'ils ont fait un album et après ils ont arrêté, parce que je pense qu'il y avait des incompatibilités d'humeur. Et à partir de là, c'est devenu un songwriter absolument incontournable, quoi. Il est installé à Nashville, il fait des choses magnifiques, et tous les albums sont bons.
Tous les albums sont bons. C'est un des plus beaux artistes de l'Americana. Je sais que, enfin, tous les albums qui sont parus depuis cette période sont tous indispensables.
Tu disais que son premier album remonte à
quoi, fin des années 70, 60. Ah non, peut-être.
Moi, j'ai 79.
J'ai 74.
74.
Ah, le premier.
Le tout premier.
Ouais. Comment il s'appelle?
Hanging Around the Observatory.
Ah, c'était celui-là. Je crois, ouais, que c'était Slugline qui était en première. Ouais. J'ai dit une bêtise, parce que moi, je l'ai connu avec Slugline.
Overcoat en 75.
D'accord. Et Slugline après.
Exactement.
D'accord. Donc c'est, moi je les connais avec Slugline. Donc il a dû sortir en 78-79.
79, tu
vois. C'est ça, ouais.
Et il a encore sorti un truc cette année.
Ouais, avec Jerry Douglas.
Avec Jerry Douglas au Dobro. Enfin, avec le groupe de Jerry Douglas.
On a eu la chance de le voir sur scène il y a 2-3 ans et c'était fantastique.
Moi je l'avais vu avec Little Village une première fois. Où là c'était assez fantastique aussi. En plus j'étais debout devant la scène à la Cigale. Et puis la dernière fois c'était pas mal non plus. Hein, ouais. À l'Alhambra. Hein. Ouais. C'était un peu court. C'est le reproche qu'on peut lui faire.
Mais il y avait Sonny Landreth.
Il y avait Sonny Landreth.
Oui, parce que rappelons que le Pax permet quand même de partager un plein d'essence pour aller.
Tout à fait. Tout à fait.
On écoute John Hiatt?
Yes.
Ouais.
Après, on peut faire.
ourselves a decent meal down at the rendezvous. 'Cause one more heartfelt steel guitar chord, girl, it's gonna do me in. I need to hear some trumpet and saxophone, you know, sound sweet as sin. And after we get good and greasy, baby, we can come on home. Put the cow horns back on the Cadillac and change the message on the quarter.
Le temps passe très très vite, que ce soit ici ou là-bas, ou chez vous, enfin en tout cas ici au studio du 666, dans Sweet Home Chicago, ça passe à une vitesse folle. On vient d'entendre John Hiatt, sélectionné par Laurent Choubrac et Jean-Christophe Panico, un album qui s'appelle Bring the Family avec Memphis in the Meantime. Et maintenant, c'est l'heure du live, les garçons.
Allez, ben, on s'est dit justement, on était parti pour jouer une de nos chansons, puis on s'est dit, bah, c'est la fête, on revisite nos influences, donc yes. On va faire une petite reprise. Donc pour faire bonne mesure, on l'a jamais joué ensemble, donc c'est la première fois.
Je ne l'ai jamais joué, même tout seul.
Voilà. Donc c'est une vieille chanson de Big Joe Turner, enfin popularisée par Big Joe Turner, qui s'appelle Got You on My Mind. Okay. Got you on my mind, feeling kinda sad, hello. Got you on my mind, feeling kinda sad. Every time
Yeah, ça c'est du live à la radio comme on l'aime.
Et t'as vu, on a fait des progrès depuis la dernière fois.
Ben oui, mais c'est carrément télévisuel tout ce que vous nous offrez là. Putain, 18 mois sans musique live dans le studio. La dernière fois c'était en décembre 2019, c'était vous.
On
va pas en parler. On va pas parler des choses qui dérangent ou qui fâchent. On va juste parler de bonne musique, d'amitié et des légendes qui ont forgé votre style et puis surtout qui vous ont permis de vous épanouir dans cette musique, que ce soit en blues, en folk, en musique américaine dans la plus grande expression du terme, on va dire. Tout à l'heure, John Hyatt, juste avant, c'était Bob Dylan, les Rolling Stones, Neil Young, Bruce Springsteen. On va aborder une autre facette, un garçon que tu cites souvent, Laurent, parmi les artistes que tu admires.
Oui, un certain Jackson Brown.
Voilà.
Alors, tu sais, je ne sais pas si c'est comme ça pour Jean-Christophe, on n'en a pas forcément déjà discuté, mais je pense que dans... quand tu es musicien et que tu essayes d'écrire des chansons et tout, il y a un artiste qui vient te percuter, qui vient je sais pas, qui correspond tout à fait à ce que toi tu es.
Tu as signé le constat depuis ou?
Ouais, j'ai fait, mais à l'amiable en plus. Mais non, tu vois, il y a quelque chose qui. Et Jackson Brown, il y a ça. C'est-à-dire que à chaque fois que je l'écoute, je me dis, mais si j'avais pu être Jackson Brown, j'aurais été très heureux dans ma vie, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et toutes les chansons viennent me mettre dans un état pas possible. Enfin, c'est vraiment l'artiste pour moi qui correspond le plus à ce que je suis. Et je pense que, alors c'est toute proportion gardée, mais la production de ce que j'ai pu faire avec West Band correspond tout à fait à ce type de musique pour moi, en tout cas, enfin notamment le deuxième album. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est un songwriter hyper respecté par les autres musiciens américains. Je sais que c'est, enfin Jean-Christophe aime beaucoup aussi. C'est peut-être pas celui qui vient le toucher le plus, je sais pas.
C'est qui pour toi Ah moi je sais pas. Ça serait une fusion entre John Fogerty et Tony Joe White, je pense.
Ouais, c'est pas mal. S'il faut un fils, on en garde un. Hein.
Voilà. S'ils avaient un fils,
ou une fille.
Ou une fille, ouais. Et donc voilà. Et alors juste, on a choisi. Alors pareil, Jackson Brown, qu'est-ce qu'il fallait choisir? C'était un peu compliqué. Bon, on a fait dans le simple. On a pris Take It Easy parce que tout le monde pense que c'est un morceau des Eagles. Ce qui n'est pas tout à fait faux.
Bah, tu vois, avant cette sélection, moi j'en étais. Hein, je pensais que voilà, dans l'album 74 des Eagles, c'était Desperado.
C'est un morceau des Eagles, mais écrit par Jackson Brown.
Alors voilà. En fait, l'histoire, c'est que Jackson Brown n'arrivait pas à la terminer. Glenn Frey lui a dit, écoute, passe-la moi, je vais. Voilà. Et c'est Glenn Frey qui a terminé la chanson.
C'est genre, passe-la moi, je vais en faire un tube.
Voilà, complètement. Non, mais c'était ça. Bien. Et d'ailleurs, elle est signée par eux deux. Et elle est d'abord sortie sur un album des Eagles.
D'accord.
Et puis ensuite, voilà. Mais alors, c'est quand même lui.
Pour la petite histoire, c'est sûr qu'on n'a pas le temps, mais moi, je résiste pas au besoin de raconter ça. C'est un truc que j'ai appris il n'y a pas très longtemps dans mes différentes lectures. Il se trouve que Glenn Frey et Jackson Brown ramaient tous les deux en même temps. Ils étaient des jeunes chanteurs songwriters et qu'ils habitaient dans la même maison en Californie, donc à Laurel Canyon. Et en fait, Jackson Brown habitait dans une pièce au rez-de-chaussée, qui était un garage aménagé, sans fenêtre, et Glenn Frey habitait juste au-dessus. Et Glenn Frey disait qu'il avait appris le songwriting parce qu'en fait, chez Jackson Brown en bas, il y avait un lit, une table, une chaise, une guitare, un piano, et que Jackson Brown était enfermé toute la journée à faire tourner cette chanson-là et à écrire. Et à un moment donné, il n'en pouvait plus, donc il est descendu.
D'accord.
Et pour la petite histoire quand même, pour resituer un peu à l'époque, Jackson Brown a commencé à écrire à 16 ans pour une certaine Nico qui tournait avec le Velvet Underground.
On parlait de Banane tout à l'heure, ça te
voilà, bah tu vois, c'était ça. Et donc c'était quelqu'un d'assez mature, déjà très très jeune. Donc voilà, Take It Easy, Jackson Brown.
Find sight. see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to have a look at me. Come on, baby, don't say maybe. I gotta know if your sweet love is gonna save me. We may lose and we may win, but we will never be here again. Open up, I'm climbing in to take it.
Jackson Brown dans la radio, c'est Sweet Home Chicago, toujours le 1112e numéro, avec cette carte blanche à Laurent Choubrac et Jean-Christophe Panucco. Et voyons un petit peu l'habileté entre Chouquette et Coup de Perrier. Comment on va se débrouiller, notre ami Jean-Christophe, pour prendre la suite? Non, c'est Laurent peut-être qui va,
donc, qui va démarrer. Donc, je suis le premier à avoir fini ma Chouquette.
À la beauté, c'est pas très radiophonique, ça, tout ça.
Donc, c'était Jackson Brown, voilà. On va passer au suivant. Un certain Mark Knopfler, donc là, on quitte un peu les États-Unis, on revient en Angleterre. Il est même écossais d'ailleurs, Mark Knopfler, je crois.
Oui.
Il est né à Édimbourg.
Eh ben, effectivement.
Il a un accent coupé au couteau d'ailleurs. Alors Knopfler, c'est pareil, ça c'est une influence énorme.
Tu l'as connu avec Dire Straits, bien sûr.
Je l'ai connu avec Dire Straits, je l'ai vu avec Dire Straits, mais j'ai pris une très grosse claque la première fois que je l'ai vu quand il a sorti son premier album,
Golden Heart.
Golden Heart en 96. Et j'ai eu la chance de le voir à Caen. Et juste pour la petite histoire, j'avais pas du tout, je savais pas du tout qui passait. Et en fait, j'ai emmené mon fils faire du skate devant le Zénith et j'ai vu qui passait. Donc je dis, bah, j'ai pris ma place. Donc je remercie ici mon fils. et là, j'ai pris une grosse claque parce que autant, bien sûr, j'étais fan des deux premiers albums de Dire Straits, un peu moins de la suite, mais Knopfler en solo, c'est quand même juste énorme. Et là, c'est là qu'on voit que c'est un vrai songwriter aussi. Ouais.
Et moi, j'étais petit ou jeune quand c'était la grande folie Dire Straits. Je vais en parler à Laurent, mais c'est vrai qu'on pouvait rentrer nulle part, dans aucun bar, dans aucune fête, sans avoir Dire Straits à fond. Et ça me plaisait gentiment, quoi, voilà. Et moi, je suis un peu comme Laurent aussi. J'ai plutôt pris ma grosse claque quand il a commencé sa carrière solo. Et j'ai particulièrement pris ma grosse claque quand en 2004, il a sorti cet album Shangri-La. Mmh. Et je me souviens qu'en écoutant Shangri-La, je l'ai découvert dans ma voiture. Je l'avais acheté quelque part. Bon, là, je l'ai mis dans la voiture et j'ai dû arrêter ma voiture pour me prendre dans la gueule tout ce qui est arrivé avec ce disque-là, aussi bien sur le plan des textes que du chant, que de la production musicale, et j'ai trouvé ça fantastique. Et ça, c'est un morceau qui n'est pas très connu, mais qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Whoop-Dee-Doo.
Marc,
un texte philosophique.
If I'm over the moon, it's because I'm over you. A day at a time, I'm tickety-boo. I don't carry on. The way I used to. Whoop-dee-doo. If I'm doing great, it's because when I get home, I don't go straight to my answer phone. Don't come the way they used to. It's because it's what I am. Funny that once I used to give a damn. I'd do anything. In a whole wide world for you. Whoop-dee-doo.
Ces doux moments, hein, c'est vrai, on entend de belles choses grâce à votre carte blanche. Moi, j'avais aucun doute.
C'était quelque chose.
Oui, je sais bien.
Je savais bien qu'il y aurait Marc Knopfler.
Voilà. Et alors, pour ceux qui jouent un peu de guitare, je les mets au défi de trouver la grille du premier coup. Parce que
vous avez essayé.
Non, mais nous, ça fait. On la connaît depuis longtemps, mais si tu la pratiques pas régulièrement, c'est tout simplement impossible. Voilà. Ceci étant dit.
Alors, comme le temps presse un petit peu, on va tout de suite écouter le prochain artiste. Un garçon pas tellement public, un garçon qui n'aimait pas trop les interviews. Il nous a quittés il y a quelques années déjà. Mmh. Et pourtant, bah, il a côtoyé les plus grands. Il a été lui-même...
Juillet 2015, non, un truc comme ça, non.
Je sais plus, franchement.
Ouais, je crois. Ouais. Ça va faire, ouais, c'est dans ces eaux-là, je crois.
JJ Kell, on adore, mmh. Unique.
Mmh. Voilà. Je réécoutais ce matin Grasshopper, qui est l'album qui suit celui qu'on va, enfin, l'extrait de ce nom, celui qu'on va passer. Et c'est monstrueux parce que c'est un type qui te mixait un morceau jamais comme un autre. Enfin, t'as l'impression que tout se ressemble et rien ne se ressemble du tout, quoi. C'est extrêmement. Et puis alors.
Des grandes chansons avec une simplicité extraordinaire.
Alors, on va dédicacer ce titre-là à Dom Ferrer, qui était l'invité de Sweet Home Chicago il n'y a pas très longtemps, un garçon qui l'a beaucoup influencé. D'ailleurs, Dom est allé plusieurs fois à Tulsa. Il n'a pas rencontré J.J. Kell, mais un peu son fils spirituel avec Paul Benjamin. Je ne sais pas si vous aviez vu Paul Benjamin.
Non, moi je ne l'ai pas vu, il était passé, je sais qu'il était
extraordinaire.
Je n'avais pas vu, moi.
On écoute un extrait de Shades.
Ouais, avec juste, pour préciser, un petit guitariste tout jeune qui joue dessus, qui s'appelle James Burton.
Jumping James Britton.